Bonjour à toutes et à tous au menu du mag. Aujourd'hui, vendredi, chat alors, hein, comme toutes les semaines, herbe à chat ou herbe au chat, vous saurez tout. Le tournage aussi d'un court-métrage en début de semaine prochaine à Sainte-Radegonde autour de l'histoire des fusillés de Sainte-Radegonde. Et puis pour commencer le mag, c'est votre rendez-vous hebdo avec le collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois.
CFM Rodez.
Sixième épisode de notre rendez-vous hebdomadaire avec le collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois. Stop Malan. Avec moi dans les studios aujourd'hui, Thierry Touya. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Thierry, membre du collectif, j'imagine ?
Oui, c'est ça.
Vous êtes avec moi dans le studio aujourd'hui, notamment, Thierry, pour évoquer un document d'information que vous adressez à tous les citoyens, hein, tous les Ruthénois, Grands Ruthénois, voire même Aveyronnais. Document papier que vous allez très bientôt distribuer comment d'ailleurs ?
Alors, on a prévu donc de le photocopier, alors si possible en couleur. Mais oui. Bon, là, il faut qu'on étudie nos finances. en grande quantité, et puis donc de le distribuer sur les marchés, mais aussi de le boîter.
Dans les boîtes aux lettres.
Voilà, dans les communes de l'agglo.
Alors, ce document, c'est bon, petit format, un format livret, comme on dit. Mais enfin, c'est 8 pages, tout de même. En le parcourant assez précisément, j'ai vu un très très grand nombre d'informations, de chiffres. J'imagine que ça a été un énorme travail. Rien que le recueil de l'information déjà.
Alors oui, bien sûr, puisqu'il y a en fait il y a de nombreux enjeux qui sont liés aux trois projets de Malan. Et en fait, quand on a commencé ce travail-là, on a creusé tous les sujets. Et donc ça demande effectivement de récupérer de l'information sur les différents thèmes qui sont l'environnement, les routes, les zones d'activité, le parc en lui-même, les salles existantes sur l'agglo, avec les dates, des quantités précises, des surfaces, etc. Donc effectivement, ça a été un travail assez long de recherche documentaire et ensuite de synthèse et de mise en forme aussi pour que ce soit compréhensible par le grand public.
Tout à fait, il y a plusieurs chapitres. Chapitre 1, un parc des expos financièrement risqué. Chapitre 2, une zone d'activité commerciale de trop. Chapitre 3, environnement et cadre de vie attaqué. Chapitre 4, des alternatives existent. Alors c'est pas trop long à lire, hein. C'est pas des gros pavés d'écriture, c'est assez bien structuré, assez bien fait avec des sous-chapitres.
Ouais, il y a des entrées différentes, donc on a essayé de faire justement pour les gens qui veulent survoler, ils peuvent se faire une idée en lisant le plan et les gros titres en fait, et peut-être aller lire plus dans le détail certaines parties qui les intéressent ou auxquelles ils vont être plus sensibles. Il y a des gens qui sont plus sensibles au côté environnemental, il y a d'autres personnes, on l'a mis en premier, qui vont être plus sensibles à l'aspect financier.
Pour ces chiffres que vous nous proposez, là, c'est pareil, c'est pas forcément à la calculette à la maison, peut-être pour quelques-uns, c'est des chiffres officiels hein, que vous...
Alors oui, on a tenu bien sûr, puisqu'en fait, on va dire, c'est en réponse aussi à une communication de Rodez Agglomération, des élus en général. Et nous, comme nous ne sommes pas élus, nous sommes un collectif d'habitants, qu'on n'a pas la même crédibilité, on va dire, on a tenu en fait à ce que nos chiffres, tout ce qui est précis en fait, soit documenté et que les gens puissent aller vérifier. Notamment pour les chiffres, puisqu'il y a eu, si vous avez suivi, un peu une petite bataille des chiffres. Donc je tiens à préciser quand même qu'il n'y a pas très longtemps, dans Rodez Agglo, on avait le coût total du parc, oui, avec la zone d'activité qui était présentée à 34 millions d'euros. Et depuis, ça a fondu comme neige au soleil, hein, puisque dans la communication, bon, on a trouvé des subventions, etc. Mais nous, on estime que les subventions font partie du coût, puisque c'est toujours de l'argent public. Du coup, pour nous justifier en quelque sorte, eh bien, effectivement, on a été chercher tous les documents officiels qui sont des comptes rendus de conseil d'agglo ou de conseil départemental, où toutes ces sommes sont écrites dans des tableaux et donc tout le monde peut aller vérifier.
Et alors pour le coup, vous, au total, sur ce document, si je ne dis pas de bêtises, vous annoncez 47 millions d'euros.
C'est ça, mais donc on est très clair sur on ne fait pas d'amalgame, hein, on est très clair dans le document. Ces sommes ne viennent pas des mêmes collectivités et ces sommes recouvrent l'ensemble des projets, dont la route qui coûte 18 millions quand même. C'est quand même presque la moitié, quoi.
Ce document, donc c'est 8 pages, vous l'avez fait pourquoi ?
Alors, je pense qu'il est né, du coup, il y a eu tout un travail, si vous connaissez aussi un peu l'historique du collectif. L'historique est venu après une opposition, on va dire, politique, mais qui était faible, de la part de certaines associations environnementales, comme le comité Coscontal, mais dont les avis n'étaient pas pris en compte. Et donc, les habitants qui estiment que ce projet n'est pas nécessaire et n'est pas bon, et qu'il va coûter cher, ont décidé de passer à l'action supérieure, c'est-à-dire de déposer un recours juridique. Donc il y a eu tout un gros travail pour que ce soit possible. Mais ensuite, nous est venue l'idée qu'il fallait aussi informer les habitants, parce que dans notre travail, on s'est rendu compte que les gens des communes impactées n'étaient pas au courant de tous les enjeux, et notamment des routes, ils ne savaient pas. Et on a vu aussi que Rodez Agglomération a communiqué sur le sujet, donc assez récemment, au mois de mars, avec un encart qui a été ajouté au magazine de Rodez Aglo. Donc si on va sur le site et qu'on essaie de télécharger le magazine du mois de mars, on ne trouve pas cet encart, il a été rajouté donc dans la version papier. C'est un livret qui ressemble un peu au nôtre, c'est-à-dire qu'il comporte genre 8 pages avec des arguments détaillés en faveur de ce projet de parc, mais aussi de la zone d'activité. Il ne parle pas des routes puisque c'est le conseil départemental qui va créer ces routes, mais elles sont nécessaires pour ces équipements. Donc quand on a lu ce document, on s'est rendu compte qu'il y avait pour le moins des parties un peu précises.
Par exemple ?
Nous, le point qui nous a paru le plus, comment dire, celui qui est ressorti en premier, c'est quand le document parle des autres équipements de la concurrence, en fait, c'est-à-dire les équipements existants dans les villes voisines. Et là, on lit qu'en fait, il n'y a pas, ça c'est un argument important, il n'y a pas de parc dans la zone primaire, c'est-à-dire à moins de 60 minutes de Rodez. Parce qu'effectivement, si deux parcs sont très proches, ils vont se faire concurrence, et bien sûr, il y en a un des deux, on peut penser celui de Rodez, puisqu'il n'est pas encore, il n'est pas encore créé, qui va pâtir de cette concurrence, alors que celui d'Albi, qui est le plus proche, lui est bien installé, ça fait longtemps qu'il fonctionne, et c'est un parc qui fonctionne bien. Et donc, on lit que, en fait, le parc d'Albi est à 73 minutes de Rodez. Donc là, c'est très simple de vérifier sur Internet que, en fait, même si on tape l'adresse exacte du parc d'Albi, il est à 63 minutes de Rodez et que donc déjà, ça paraît pas précis. Et puis surtout, que tout le monde est au courant que la deux fois deux voies va être terminée entre Albi et Rodez et qu'on a lu dans la presse que du coup, Albi serait à 45 minutes de Rodez. Du coup, ça change tout parce que la concurrence du parc d'Albi, elle va être beaucoup plus forte. Pour moi, c'était un des arguments précis, essentiel du document de l'aglo, et je l'ai trouvé attaquable, et donc c'est là que ça nous a donné l'idée de creuser sur cet aspect-là, mais aussi tous les autres.
Alors effectivement, dans ce document de 8 pages, vous indiquez plusieurs fois ce que les élus vous disent, et puis derrière, avant ou après, ce que les élus ne vous disent pas, donc vous ajoutez des précisions, vous...
Tout à fait, parce qu'en fait, bon, quand on s'intéresse un peu aussi à la politique et à la communication des élus, on se rend compte que l'essentiel de l'information et dans ce qu'on ne dit pas. En fait,
parfois,
c'est en
oui,
creux.
Parfois, oui. Oui.
Voilà, donc ici, l'idée, c'était pas de faire un tract, on va dire, à charge, puisque on nous appelle les opposants, et en fait, on s'estime pas être que des opposants. Et en tout cas, si on s'oppose, on estime que c'est pour des bonnes raisons. C'est pas une posture, c'est pas une posture politique. Et puis d'ailleurs, il y a beaucoup de sensibilités dans notre collectif qui regroupe des gens très différents. Et du coup, on a voulu faire un document d'information alternatif, puisqu'évidemment, la force de communication de l'aglo, c'est de distribuer un document qui va être lu par tout le monde, qui va être très bien présenté en couleur et qui va arriver dans les boîtes aux lettres de tout le monde. Et donc nous, évidemment, en face, bon, des fois on passe dans la presse, on passe ici à la radio, merci de nous donner cette voix, merci beaucoup, mais quand même, on n'a pas le même impact. Voilà, donc du coup, on s'est dit, il faut qu'on fasse un document pour informer les habitants, et on voulait quelque chose de précis, de documenté, un peu de référence.
La distribution, alors soit dans les boîtes aux lettres, soit sur les marchés, ça va débuter quand ?
Alors, on a failli débuter maintenant, puisque en fait, les tracts sont déjà imprimés en plusieurs centaines. Mais on a préféré, donc c'est une décision collective, on a préféré attendre la fin des élections pour le faire. En fait, du point de vue, on va dire, du projet de Malan, on n'est pas un mois près, quoi. Puisque ce qui était pressé du point de vue des délais, c'était la date du recours, parce qu'il y a des dates butoirs. Ça, c'est déposé, ça suit son cours. Mais pour l'information aux habitants, on va dire, en fait, ça peut se faire, bien sûr, à la rentrée, ça peut se faire dans 6 mois, ça peut attendre un peu. Puis ça sera progressif, puisque si on veut informer beaucoup d'habitants, ça va prendre du temps aussi.
Donc, bientôt dans vos boîtes aux lettres, dans les rues distribuées par les membres du collectif pour la préservation des terres agricoles de Ruthénois, ce document d'information de 8 pages, alors on n'a pas le temps de développer, hein, mais si, tiens, je vous demandais de ressortir un élément qui vous semble important de voir être dit là rapidement sur CFM.
Un des arguments importants, c'est peut-être, alors pour pas comment dire, redire ce que sont venus dire les autres membres du collectif, peut-être sur l'utilisation du parc d'exposition en lui-même, qui est donc le projet de départ qui induit en fait la zone d'activité, qui induit la nouvelle route. Donc c'est un équipement qui se veut multifonction, mais avec une très grande surface pour pouvoir organiser des foires et des salons. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, hors foire et salon, les équipements de l'agglo, qui sont récents, sont suffisants. Et pour tout ce qui est grands événements, en fait, on remet en cause en fait l'utilité de ce parc, parce que la tendance qui est donnée par des études, hein, si on cherche un peu, il y a des références dans le document justement, montre qu'en fait, ces grands événements, à part les grands événements populaires type Estivada, mais c'est ce qu'on met aussi dans notre document. Est-ce que quelqu'un a envie de passer l'Estivada, qui est un événement convivial et populaire, dans le parc des expositions? Je pense que non. C'est le type d'événement qu'on a envie de vivre en ville. Et aussi parce qu'on a besoin d'être dans un cadre agréable et que c'est plus agréable qu'en périphérie, sur un parking, avec une zone d'activité ou commerciale qui sera tout autour. Donc, si on regarde les tendances en fait de tout ce qui est tourisme d'affaires, puisque c'était un des points a amené un des points forts de développement de ce parc des expositions, un de ses axes de développement, eh bien on se rend compte qu'en fait, le tourisme d'affaires, c'est plutôt des congrès avec des tailles qui vont être de plus en plus petites. Et surtout, les grands congrès ont lieu dans les grandes villes, en fait. Donc, les gens qui vont se déplacer pour faire des congrès professionnels ou des salons professionnels, sur Rodez, ils vont plutôt préférer des congrès à taille humaine. Ils vont préférer être en ville pour pouvoir, en sortie de congrès, profiter d'un cadre agréable. Et ça, tout ça, c'est accentué aussi par la crise sanitaire, puisque même quand on en sera sorti, on est bientôt sorti, j'espère, hors Covid, en fait, on se rend compte que les habitudes des entreprises ont changé. Donc, quand on lit les documents de référence, on apprend que les entreprises développent bien sûr la visio, développent des salles de réunion en interne, et on a besoin de se réunir, mais on n'a plus besoin de se réunir en grand format comme avant.
Merci beaucoup Thierry Touya d'être venu dans nos studios pour le collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois. Je renvoie vers vos réseaux sociaux, site internet, page Facebook, Stop Malan, collectif pour la préservation
des terres agricoles du Ruthénois. Ouais, on va le redire puisqu'on le dit à chaque fois, mais je vous donne donc un lien raccourci, c'est vue.fr/site-malan, tout attaché. Donc là, vous tombez sur notre site internet avec tous les autres liens, dont notamment celui vers notre document d'information qui est téléchargeable. Je vous donne un autre lien raccourci si vous voulez tomber directement dessus. C'est vue.fr/tract-malan.
Merci beaucoup Thierry.
Merci à vous.
À suivre Chalor avec Emeline, mais d'abord un tournage et une recherche de figurants en début de semaine prochaine à Saint-Radegonde.
CFM. CFM Rodez.
Patrice Guillain, bonjour.
Bonjour David.
Vous êtes metteur en scène. Vous avez réalisé de nombreux courts-métrages, dont plusieurs ont été récompensés à travers le monde, n'ayons pas peur des mots. Et vous venez la semaine prochaine en Aveyron, à Saint-Radegonde, pour un tournage, c'est ça?
Tout à fait David. Je suis venu en mars à Rodez pour montrer la Derdéder et les plaques, qui est le premier épisode d'une série sur le devoir de mémoire et la résistance. Et ce sont des jeunes élèves qui m'ont raconté l'épisode sanglant du décès de toute 44 à Saint-Radegonde. 30 maquisards, otages et des jeunes de 16 ans et des hommes de 50 ans qui ont été fusillés lâchement par les Allemands le 17 août. J'étais bouleversé par cette histoire et ce récit. Et dans le retour, dans le train, comme quoi le train, j'ai eu le déclic de dire il faut que ce soit le deuxième épisode de ma série Les Plaques. Quand je parle des plaques, ce sont les plaques commémoratives qui sont installées dans les îles où, par exemple, on dit Louis Dumas, 19 ans, est mort. Donc la semaine prochaine, on tourne voilà, avec des habitants de Saint-Radegonde, les élèves du lycée. Donc je suis très ému de revenir pour tourner, comme quoi il faut croire en ses rêves.
Et vous allez tourner sur le site qui commémore ces fusillés de Saint-Radegonde, comme on dit ici?
Alors grâce à la gentillesse et l'accueil de Madame la maire, Madame Laurence Pagès-Pouvé, on m'a donné l'autorisation exceptionnelle de tourner sur le site.
Ça va être quoi l'objet du court-métrage?
Alors je vais essayer de raconter et de partager mes émotions, de filmer ces jeunes sur le site mémoriel, l'endroit où ça s'est déroulé. Je me concentre sur quatre jeunes de 16 ans, 18 ans. Il y a Marcel Matisse, Jean Kroll, Roger Lavergne, Robert Barr. Ils avaient tous 16, 18 ans, 19 ans et 21 ans. Et en fait, ce sont des élèves qui ont interprété ces rôles. Alors, je ferai des flashbacks pour filmer leur arrestation, pour bien les situer dans l'histoire. Alors, il faut réussir le film maintenant parce que c'est pas une mince affaire. Mais grâce aussi à Madame Anne-Marie Escoffier, qui est la marraine du film, on a réussi à tisser des liens entre les habitants, les Aveyronnaises et les Aveyrons. Et je me suis rendu compte, c'est elle qui me l'a dit, que cette histoire est encore dans les âmes et dans les cœurs de l'Aveyron. Ça a marqué les esprits, parce qu'en fait, c'est un massacre pour rien. Après le 15 août, le débarquement en Provence, alors je suis pas journaliste ni historien, mais j'ai fait des recherches un peu. Voilà. Après le 15 août 44, c'est la débâcle, les Allemands ils fuient. Donc ça servait à rien le 17 d'assassiner 30 personnes. C'était plié, c'était fini la guerre. Puisqu'ils ont quitté Rodez le 18. C'est pour rien, quoi. C'est ça qui me bouleverse.
Ça sera donc, si j'ai bien compris, puisque vous allez filmer avec des jeunes d'ici, certains moments de l'époque, c'est plus une fiction qu'un documentaire.
Alors moi, que j'essaie avec la DRDDR, et notamment le premier épisode de la série Les Plaques, alors vos auditeurs, ils pourront voir ça sur en tapant mon nom, Patrice Guillen, la DRDDR, et les plaques, ils pourront voir mes courts-métrages. J'ai une chaîne YouTube, parce que je fais des films pour que les gens les voient. Moi, j'essaie de coller à la véracité du propos. Voilà, c'est très important pour moi. L'histoire que m'ont raconté les élèves, l'histoire que m'a raconté les historiens, tout ce que j'ai lu, ça m'a servi d'éléments pour écrire le scénario. C'est les vrais noms. Après, il n'y a pas de témoins oculaires. Il n'y a que des témoins auditifs. Donc, je me sers quand même de ces témoignages. Il faut savoir que le dernier témoin auditif, il est mort l'an dernier. Donc c'était Gaston Ferrier, qui avait 18 ans à l'époque. C'est un des premiers qui a le 18 a été à ce qu'ils appellent la levée des corps. C'est-à-dire qu'ils ont été voir, ils avaient entendu des tirs. Je me suis dit, en fait, tous ces jeunes-là, ils sont devant le peloton d'exécution. Ils ont chanté la Marseillaise à gorge déployée, donc ça je le filme.
D'accord.
Il faut le transmettre. Ça. Donc d'apprendre que ce monsieur était décédé l'an dernier, je me suis dit, j'aurais rêvé de l'interviewer pour qu'il nous raconte. Mais comme je vous dis, il n'y a que des témoins auditifs et pas de témoins oculaires. Et ben, le cinéma comme vecteur peut servir à ça, de raconter ce que les personnes n'ont vu. Faut pas qu'ils soient morts pour rien et qu'on ne les oublie jamais, parce que, en l'occurrence, c'est pas du cinéma. C'est arrivé en vrai.
Alors, 3 ou 4 jours de tournage, je crois, à partir de lundi.
On a 3 jours de tournage pour des intérieurs et des extérieurs. On tourne le mardi 22 juin à la cible de Saint-Radegonde. Donc, on a beaucoup de figurants, mais s'il y a des gens qui veulent venir faire un peu de figuration, qui vous contacte, qui seront les bienvenus.
D'accord. Vous cherchez des figurants, quoi, comme style, âge, ou autre particularité?
Pour faire des soldats allemands, il m'en manque un petit peu. S'il y a des gens qui veulent pas interpréter les soldats allemands, je peux comprendre, ils peuvent faire des figurants. Pour aussi faire des fusillés, parce qu'ils étaient 30. Puis après, j'ai un nombre de figurants nécessaires au tournage. J'en ai déjà beaucoup. Mais je me dis, qui veut venir, qui a envie de venir partager ses émotions dans cet hommage? Il est ou elle est la bienvenue. Et puis là, c'est la Légion étrangère qui vient nous aider pour venir chanter avec les jeunes la Marseillaise. Donc ça, c'est un grand honneur.
D'accord. Le régiment basé sur le Larzac, là, qui vient à Saint-Radegonde pour le tournage.
Le 13e DBLE, voilà.
Okay.
C'est le 13e DBLE, ils viennent nous aider. Ils viennent à 6 nous aider, faire la figuration, aider les jeunes à chanter la Marseillaise. Donc voilà, d'avoir la Légion étrangère avec nous, c'est un honneur.
Comme on va revenir sur cette époque, il y a uniforme et tout, c'est lourd comme tournage.
Oui.
Et oui.
Oui, c'est lourd. Ah non, c'est très lourd. Après, il y a une recherche sur les vêtements civils des figurants, évidemment. C'est que les gens jouent le jeu, ça leur dit coiffez-vous, comme à l'époque. J'ai une société qui s'appelle Cinérégie, qui loue des armes et des uniformes pour le cinéma, qui me donne un coup de main, qui va habiller les soldats allemands. Donc c'est un gros travail en amont, mais c'est intéressant, c'est passionnant.
Patrice Guillen, je l'ai indiqué en ouverture, et puis vous l'avez évoqué, la DRDDR notamment. Vos courts-métrages, pour l'essentiel, c'est autour du mémoriel, comme on dit. Pourquoi cette passion pour ces sujets-là?
Alors, vous tombez bien, David, parce qu'il y a une dame qui a vécu la guerre, qui a vu les plaques et la DRDDR lors d'une projection. Elle me pose cette question avec beaucoup de gentillesse. Pourquoi vous faites des films sur la guerre? Et je lui ai répondu pour avoir la paix. C'est une boutade, mais en fait, c'est aussi pour célébrer ce devoir de mémoire. C'est pour aussi dire à nos jeunes générations et moi-même que fort heureusement, on n'a pas vécu la guerre. Donc il faut se rappeler, c'est là que le devoir de mémoire, il intervient. Et puis, c'est un sujet qui me touche. Quand je lis des témoignages de gens, des ouvrages, ou que je revois l'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville, je me dis, mes grands-parents ont vécu cette période, tout, comme toute la France. Heureusement, nous, alors il y a des conflits, hein, nos troupes, elles sont projetées, déployées sur des théâtres d'opérations extérieures depuis des années. Mais nous, heureusement, on n'a pas vécu ça. Donc il faut s'en rappeler.
Et notamment grâce à vous et à vos films, ce court-métrage, d'ailleurs, vous avez déjà le titre ?
Ça s'appelle le 17 août à 17h.
Quand est-ce que nous, on pourra le voir ? Vous avez une petite idée ?
Ce sera un gros chantier de le réaliser sur place. Il y aura beaucoup de post-prod, mais je vais tout faire pour qu'il soit prêt le 17 août 2021.
D'accord.
Et qu'à l'issue de commémoration sur le site mémorial des martyrs de la Résistance 1904, il y a une commémoration... qu'on a essayé de retrouver tous, et avec tous les gens qui m'ont aidé pour ce film, qu'on a allé le voir ensemble à la salle des fêtes de la mairie de Saint-Radegonde. Voilà. Et puis après, ce sera le deuxième épisode de cette série des plaques. Donc après, il sera visible sur YouTube, parce que vraiment, moi, j'y tiens. Je fais vraiment des films pour que les gens les voient.
On va vous souhaiter un très bon tournage de lundi, enfin en début de semaine, là, sur Saint-Radegonde. Et puis, un bel été, mais ça va être un été, vous, ça ne sera pas sur la plage, hein, si j'ai bien compris.
Non. Non, ce sera autre chose, mais d'aussi passionnant et d'aussi intéressant que d'aller se baigner ou de prendre un bain de soleil.
Merci Patrice Guillen.
Merci beaucoup David.
Bonjour, Emeline Blanc-Gauthier, comportementaliste félin. Dans Chat alors, nous parlons des chats. Et aujourd'hui, nous allons parler d'herbe à chat et d'herbe au chat. Commençons par les distinguer. L'herbe au chat est une expression regroupant diverses plantes provoquant un effet euphorisant ou excitant sur certains félins, notamment les chats. En France, l'appellation commerciale herbe à chat désigne les jeunes pousses de diverses espèces graminées ou de souchées, comme par exemple le blé, l'orge ou encore l'avoine. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Cécile, spécialiste des végétaux, et Alain, amateur de chats. Ils sont tous les deux bénévoles pour l'association Chat Libre 12. Et ensemble, on va vous parler d'herbe à chat et d'herbe au chat. Cécile, est-ce que tu peux nous parler des espèces d'herbes au chat, donc celles qui sont euphorisantes et apaisantes ?
Pour les herbes euphorisantes, on peut trouver le népeta ou la catère, qui sont des plantes vivaces. Et pour les plantes apaisantes, on aura la valériane, qui est aussi une plante vivace que vous pouvez planter au jardin et donc qui repoussera chaque année.
Alain, est-ce que ce sont des plantes que tu as dans ton jardin ?
Tout à fait.
Qu'est-ce que tu as ? Raconte-nous.
Alors, en plus de ces deux précités, j'ai aussi du thym. D'autres plantes de type menthe générale, menthe poivrée ou autre, qui ont un effet un peu moindre quand même que la Nepeta cataria, mais qui ont quand même un effet assez conséquent sur les chats. D'ailleurs, généralement, c'est là qu'on les retrouve quand ils veulent se mettre dans un milieu bien pour faire leur petite sieste.
Cécile, est-ce que c'est facile de se procurer des graines ou des plants de valériana ou de Nepeta catera ?
Pour ce qui est des plantes vivaces, le mieux c'est quand même de planter des petits plants que vous pouvez trouver au printemps dans vos jardineries, chez les fleuristes, dans les animaleries aussi. Ensuite, vous pouvez les faire fructifier, ces plantes, par marcottage ou par bouturage, ce qui marche très bien. Et sinon, les graines, pareil, dans les jardineries ou chez les fleuristes, ça se trouve très facilement.
Même si on n'a pas la main verte, ça se fait pousser assez facilement ?
Oh oui, si on n'a pas trop la main verte, on privilégie les plants. Il faut penser à arroser, mais après, la nature fait le reste.
Alain, tu as fait des tests sur plusieurs chats, plusieurs plantes.
Oui.
Alors, raconte-nous quel effet ça leur fait.
Alors, pour certains, la Nepeta a un effet vraiment... c'est une chute intégrale. Ils sont complètement stone, ils se roulent sur le dos, les quatre pattes à l'air, ils bavent. C'est l'extase totale, c'est le nirvana. D'autres, comme la valériane, c'est plutôt apaisant, ça. Les calmes, ils deviennent plus sympas. Avec d'autres plantes, type menthe générale, ou même, de toute façon, toutes les plantes ont un effet sur les chats, plus ou moins. Le persil, par exemple, m'en rend certains complètement hystériques. Et en plus, c'est un bon diurétique, donc ça pose pas de gros problèmes. Pour la petite anecdote, avec la Nepeta cataria, donc l'herbe à chat ou la menthe à chat, ou on lui donne tous les noms qu'on veut, il y a un chat qui fréquentait mon jardin depuis très longtemps, mais un sauvage intégral. A eu grogné, soufflé, foutre des coups de pattes, tenté de mordre. Et un jour, il était carrément couché dans le plié de Nepeta. À ce propos, ça a du mal à pousser d'ailleurs. Et il était les yeux à demi clos, la bouche à moitié ouverte. Je m'approche et j'y caresse le ventre. Il a éprouvé vraiment un plaisir fantastique dans l'opération. Et puis tout d'un coup, il s'est aperçu que c'était pas normal. Il s'est réveillé. J'ai eu droit à deux coups de pattes, gros yeux et plus de félin de ma peau.
Ces herbes, on peut aussi les trouver sous forme de jouets en animalerie. Cécile, tu connais aussi ce rayon-là. Est-ce que tu peux nous parler des formes que l'on peut trouver de jouets ?
Dans les jouets, donc, on retrouve souvent le nepeta ou la catère sous forme séchée. Donc la plante est séchée. Donc soit c'est intégré dans le jouet directement, soit ça existe en petite boîte ou en petit flacon. À ce moment-là, c'est vous qui l'intégrez dans le jouet. Ça peut se mettre sur les griffoirs, sur les arbres à chat, là où on veut que le chat en fait soit attiré. Donc c'est bien pratique pour éviter qu'il aille griffer le canapé. On met sa petite herbe à chat sur le griffoir et le chat est attiré sur le griffoir. On peut aussi retrouver ces herbes-là sous forme de spray. Bon, après avoir les autres ingrédients qui composent ces sprays, bon, voilà, faut lire les étiquettes, mais souvent en poudre, ça marche très bien et voilà, c'est inoffensif quoi pour l'animal.
Alain, tu as accueilli des chats sauvages. Est-ce que ces herbes t'ont permis de faciliter l'acclimatation dans la maison et le contact avec l'humain ?
Toujours, même quand je vais faire une capture sauvage à l'extérieur, j'ai toujours mon pied de nepeta. Je cueille en partant, comme ça, il est tout frais. Même l'hiver, puisque la plante résiste quand même, et donc je frotter les mains avec, et dans la plupart des cas, ça intrigue le chat, faute de pouvoir le sociabiliser de suite, mais ça lui permet d'arriver. D'ailleurs, ça nous a permis de récupérer des chats qui avaient fugué en mettant de la nepeta dans le piège. Ils étaient intrigués et ils sont rentrés de même dans le piège. Et c'est vrai que c'est un facteur apaisant. Moi, je l'utilise aussi en huile essentielle, des fois, pour l'environnement. Pour les captures, ça permet de s'éviter d'avoir des coups de griffe intempestifs, même si c'est pas toujours vrai, mais c'est une relation qui s'établit avec le chat plus rapidement.
Cécile, tu as plusieurs chats, tu accueilles plusieurs chats. Est-ce qu'il y a une herbe qu'ils préfèrent ?
Alors, qui préfère, après, chaque chat a sa personnalité, donc certains vont préférer, principalement, oui, c'est le nepeta qui les rend euphoriques. Après, si on veut apaiser, c'est vrai que la valériane est d'une aide précieuse sur des chats qui sont très stressés à l'arrivée à la maison, notamment des chats qu'on accueille qui sont complètement perdus. Et c'est vrai que la valériane aide à apaiser l'ambiance et à les faire se sentir mieux, quoi.
Alain, est-ce qu'il y a un danger pour le chat par rapport à toutes ces plantes ?
Non, absolument pas, sauf il n'y a pas de phénomène addictif. Du reste, s'il y en avait, il serait toujours d'aller sur les pieds dans le jardin. On aurait des junkies carrément au lieu d'avoir des chats dans vous. Par contre, bon, il est dit que la valériane peut être addictive. Mais de toute façon, ils n'en trouvent pas forcément partout. C'est à nous à le réguler. Mais il n'y a rien de vraiment précis sur le sujet. En tous les cas, nulle part est mentionné le moindre risque avec les félins.
Merci à tous les deux d'être venus d'un chat à l'or sur CFM Radio. Vous en savez un petit peu plus donc maintenant sur l'herbe à chat et l'herbe au chat qu'il faut bien distinguer. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.
Voilà, c'est la fin du MAC pour aujourd'hui. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Bon week-end et rendez-vous lundi pour